We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur We Do Biz, la radio des entrepreneurs. Et comme vous le savez, on va retrouver notre émission favorite, enfin votre émission favorite, le Jukebox de ma vie. Donc le Jukebox de ma vie, je vous rappelle le principe, on se promène avec un entrepreneur dans le Jukebox qui a composé sa vie, toutes les musiques qui ont jalonné son parcours. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jackie Isabello. Bonjour Jackie.
Bonjour Stéphane.
Donc Jackie, pardon, vous êtes entrepreneur et depuis plusieurs années, vous exercez dans une belle maison parisienne dont le nom est Pressez-vous, me semble-t-il.
C'est ça.
D'accord. Vous pouvez me dire quelques mots de Pressez-vous ?
Alors Pressez-vous, c'est une société qui a été créée en 1998, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans et qui a pour particularité de pratiquer le métier des relations avec les médias, donc dans le secteur de la communication. Et nous mettons en relation nos clients avec ces professionnels tant courtisés que sont les journalistes.
Je crois que Pressez-vous, en plus, une grande spécialité, c'est qu'effectivement, vous êtes un des fleurons de la relation média sur l'entrepreneuriat. C'est en tout cas une de vos grandes spécialités.
Ouais, c'est notre spécialité et plus que ça, c'est notre sacerdoce. On a accompagné depuis très longtemps maintenant... une grande partie de ce qui se fait dans le domaine de l'entrepreneuriat, des TPE, des PME, de l'économie d'entreprise de façon générale, va-t-on dire.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi à titre personnel ? Quel âge vous avez ? Est-ce que vous avez des enfants ?
J'ai 39 ans, j'ai deux enfants, je suis marié et Pressez-vous, mon deuxième bébé, puisque j'en ai créé une première lorsque j'étais encore étudiant. Dans une école qui s'appelle l'École supérieure de gestion, on lui fait un peu de pub. Parce que d'éminents conseillers en communication de président de la République en sont diplômés. Je ne touche pas le pied du micro. on est au direct, hein, il faut le dire aux auditeurs.
C'est ça, direct. Il faut toujours faire très attention. Hein.
Et on s'occupait de logements étudiants. Et puis ensuite, je suis allé faire mes armes dans des institutions plus politiques, servir l'État comme... On pourrait dire, si on parlait de la chose militaire. Et ensuite, j'ai redécouvert la chose entrepreneuriale et créé cette entreprise qui s'appelle Pressez-vous et qui continue d'exister et qui, depuis quelque temps, a rejoint un éminent groupe de communication qui s'appelle Welcome. Nous avons eu la chance d'être rachetés il y a quelque temps.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup de ces informations et de cette mise en avant, en tout cas, de votre...
Nous ne sommes pas cotés, donc vous ne pourrez pas acheter d'actions.
Pas encore. Quand on a commencé à préparer cette émission, vous m'avez dit « Oui, mais alors moi, effectivement, j'ai un parcours parisien, mais au départ, je ne suis pas de Paris. Alors, d'où êtes-vous ? »
Mais personne n'est parisien, en fait, c'est ça. Je suis un vieux Lyonnais.
Vous êtes un Lyonnais.
Voilà, je suis né à Lyon.
Lyonnais de Lyon ou Lyonnais de la région lyonnaise ?
Lyonnais de Lyon.
D'accord. Quel arrondissement ?
7e arrondissement.
Bravo.
Dans une caserne de pompiers, si vous voulez tout savoir.
Ah, on veut tout savoir. C'est le but de cette émission, c'est effectivement de tout savoir. Et alors donc, quand on a abordé, si je vous ai dit, il faudrait que vous trouviez une musique qui me dise d'où vous venez. Et alors, vous avez très, très, très simplement choisi...
Le cri du cœur.
Le cri du cœur, le cri de l'enfance, c'est-à-dire...
Chantal Goya.
Avec Guignol, je propose qu'on l'écoute et puis qu'on revienne ensuite sur We Do Biz pour évoquer ce parcours lyonnais.
Je sais un ami qui est vraiment gentil. Il est drôle et fou, mais quand j'ai des soucis, je vais le chercher où il s'est caché. Je suis sûre que vous le connaissez.
C'est Guillaume,
Retour sur WeDoBiz. Effectivement, alors là, c'était une ambiance incroyable dans le studio. J'ai Jackie Isabello qui me court après, effectivement, en essayant de me taper. Donc, vous me prenez pour Niafron, c'est bien ça?
Il faut bien scénariser un peu, puisqu'on est à la radio, on ne voit pas.
Et donc, grand héros lyonnais et héros à la fois païen, mais avec une évocation quand même d'une critique.
Oui, c'est un héros mythique, puisque à l'instar de ce que les gens connaissent de Molière, La Fontaine, cette critique un peu déguisée du pouvoir en place. Guignol, c'est ça, c'est le représentant du peuple, c'est celui qui se permet de taper sur l'oppression, sur le gendarme, et qui déstabilise l'ordre établi, et au plus grand plaisir des petits et des grands. À Lyon, tout le monde connaît Guignol, tout le monde va voir Guignol. On se fout un peu de Chantal Goya, en fait, mais nous sommes des grands fans de Guignol, en fait.
Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage historique sur Guignol. Donc vous arrivez à Paris à quel moment ?
Très jeune, 22 ans, d'accord. À peine pubère.
Ça c'est effectivement.
Mais déjà des étoiles dans les yeux. Je voulais voir mon nom en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui.
Et donc, pour juste avant d'arriver, vous vivez donc votre parcours à Lyon, parcours tranquille.
Classique,
école, boum.
École, boum.
Relation sympathique, mais en même temps pas toujours évidente avec les parents.
Non, ça, mon père était pompier, donc valait mieux pas trop que je la ramène, sinon ils me tombaient tous dessus. Alors bon, j'avais plein de copains musclés, avec plein de jolies filles partout. Puisque qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un pompier en short pour attirer les filles ? Rien du tout.
Donc, alors, vous avez choisi de ne pas être pompier, justement.
Voilà, j'ai choisi de ne pas être pompier.
D'accord. Voilà. Et dans ce choix, on a évoqué aussi votre enfance. Et alors là, vous m'avez donné... On sort de Guignol, on sort de Chantal Goya, mais on reste quand même sur une grande légende des années 70. Puisque là, vous m'avez parlé... Alors, est-ce que c'était vos parents qui écoutaient Joe Dassin ?
C'est ça.
Oui, c'était le...
Tout à fait.
Le leitmotiv de la famille.
Voilà, c'était leur artiste préféré.
Vous aviez quoi comme voiture ? Qu'est-ce que vous écoutiez dans la voiture ?
Ah, dans la CX.
Vous aviez une CX ?
Absolument. On écoutait Joe Dassin.
D'accord. Et alors,
mais à la radio, parce qu'on n'avait pas le poste cassette encore. Ça, d'accord. C'est la génération d'après.
Vous allez nous faire pleurer, Jackie. donc, on va écouter un grand moment. Vous allez siffler là-haut.
Sur la colline.
À tout de suite.
Elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai,
zai 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 zai
Joe Dassin, les Carpentiers. Bref, tout un programme.
Les coupes des années 70.
Les coupes des années 70, qui reviennent quand même très à la mode.
Ah oui, régulièrement, fort fort.
Bon, on n'a pas encore eu les pantalons pas de def, mais objectivement, pour le reste, les coupes...
Ah, c'est revenu quand même, il y a quelques années. Puis les filles, là, elles commencent à remettre des trucs un peu moulants avec les pattes d'élèves.
Bon, bah, je vois que vous êtes
très... Ce qui n'est pas désagréable, d'ailleurs. Hein.
Je vois que vous êtes très, très au fait, en tout cas, de la mode des années 70. Vous, donc, je pense que vous aviez... Comme tous les enfants des années 70, le sous-pull orange, toutes ces choses-là que vous portiez assez élégamment. Et alors, à partir de quel âge vous avez commencé à acheter de la musique, à apprécier la musique? C'était quel âge? Vous aviez un électrophone? Vous avez acheté d'abord des 33 tours? Vous avez acheté quoi?
Non, en fait, moi j'étais raisonnablement musique. Et puis un jour, j'ai rencontré des amis. Et ils m'ont appris le métier de DJ. Donc j'ai été DJ pendant 4-5 ans. J'ai gagné de l'argent. Oui, et j'ai exercé cette profession, parce que c'était pas enregistré à la chambre de commerce, hein. Je l'excuse.
Pas un hobby.
Mais tous les week-ends, nous animions des mariages, des soirées, le Noël de la boîte de ma mère, de sa cousine, voilà.
D'accord, et alors, vous m'avez dit que le premier disque que vous aviez acheté, c'était Another One Bites the Dust.
Absolument.
Donc de Queen. Qui est peut-être un des morceaux les plus, moi je trouve, les plus dansants de ce qu'a proposé Queen, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une grosse basse, une grosse rythmique.
Ouais, puis c'est une rupture aussi, comme toutes ces chansons. C'est un type qui a fait qui a une formation très classique et qui s'est imposé dans le milieu du rock'n'roll avec une formation classique et une voix exceptionnelle.
D'accord. Bah écoutez, on va se mettre un petit peu de basse dans les oreilles avec Another One.
On va se dévergonder.
On va se dévergonder, c'est parti. après ces 3 minutes 33 secondes en tout cas de Queen, de sauvagerie.
Qu'est-ce qu'on a fait là d'ailleurs? On a sauté sur la table.
Entre autres.
Avons fait de la guitare, comment ça s'appelle là?
Air guitar. Vous nous rappelez le principe de l'air guitar?
Il faut simuler un guitariste hystérique sans guitare.
D'accord. Et donc, je crois que c'est les Japonais qui sont des champions de air guitar. Il y a des championnats du monde de air guitar.
Parce qu'en vrai, guitare, ce ne sont pas les champions du monde en tout cas.
Non, ça, on réserve ça effectivement à des artistes comme Freddie Mercury, comme en tout cas tous les grands spécialistes des années 60, 70, 80. Et alors, vous mixiez quoi? Vous étiez en train de nous dire que vous étiez DJ. Vous mixiez quoi?
Ah, tout. Mais alors, puisqu'il y a un BPM,
d'accord,
par minute.
Mais alors, est-ce que vous faisiez plutôt de l'animation de mariage avec la chenille, ou est-ce que vous étiez plutôt dans une approche un peu underground?
Ah, mais tout, dans les mariages, il ne faut pas mettre la musique qu'on aime, il faut mettre la musique que les gens ont envie d'écouter.
Oui.
Alors, le principe est simple, on achète un disque. Alors, nous, calculer le BPM à la main, hein. On calcule le nombre de beats par minute, bam, tam, tam, tam. Ensuite, on note en haut du disque. Après, on prépare ses playlists en essayant de faire monter le rythme ou de casser le rythme. Et on enchaîne les morceaux sans que la rupture de rythme soit audible pour celui qui danse, ce qui est plus compliqué.
C'est un peu la vision qu'on a aujourd'hui dans l'entrepreneuriat quand on parle de développement de l'innovation. C'est un peu ça?
Écoutez, c'est un bon enchaînement. Même si en matière d'innovation, il faut plutôt viser la rupture que la continuité.
Ah, pas forcément. Mais on a des très très belles innovations de continuité aujourd'hui.
Ouais, ouais, c'est vrai, vous avez raison.
Quand on voit l'évolution d'Apple, des produits Apple, on n'est pas forcément que sur de la rupture. Hein. On est sur...
En tout cas, l'innovation en matière de musique, c'est le fait que David Guetta soit désormais une superstar partout dans le monde. Alors comment le disjockey, comme disait cet éminent philosophe David Guetta, il disait « le DJ, c'est celui avec lequel les filles partent quand le barman était vraiment pas beau. » Voilà. Donc c'est devenu une vraie profession.
Mais vous avez un petit trémolo dans la voix, c'est un regret? Vous auriez aimé être cette fameuse rockstar comme David Guetta, mais que vous n'en ayez pas la même implantation capillaire?
Absolument pas. C'était un bon divertissement et c'était des bons souvenirs. Et puis c'était un moyen de faire de l'argent. Moi j'avais besoin de gagner de l'argent quand j'étais jeune, ça rapportait plutôt pas mal.
Bon alors l'entrepreneuriat, ça y est, on y est. Vous venez de nous le présenter sur un phénomène qui est celui de la passion avec le côté DJ. Et puis maintenant, donc alors, c'est quoi la suite?
La suite, c'est que je termine mes études. Ma mère est contente que je rentre à Paris, mais entre-temps... Une autre femme en avait décidé autrement.
Tintintin.
Tintintin. Et donc, je rencontre un ami qui me met sur un projet de création d'entreprise dans le domaine du logement étudiant. Erasmus venait d'être développé en France. Les Français n'ayant pas la même façon de consommer le logement que les anglo-saxons. On s'est aperçu que tous ces étrangers qui débarquaient en France ne savaient pas comment se loger. Et ayant travaillé en Angleterre pour ma part et aux États-Unis pour celui qui fut mon associé, on a aidé tous ces gens qui venaient d'ailleurs et qui parlaient mal notre langue à s'apprivoiser avec le logement. Voilà, et c'était donc une activité qui était très médiatique. On faisait plein de télé, plein de radio, plein de journaux. Et voilà, ça a duré quelques temps. Et puis voilà, je suis parti faire d'autres choses. Et d'ailleurs, je crois que la société existe toujours.
Elle s'appelait, et elle s'appelle ?
Elle s'appelait l'Organisation étudiante internationale de logement. Alors c'est très marrant parce que ça faisait l'œil et tous les journalistes s'en donnaient à cœur joie. Ils disaient un logement à l'œil, c'est comme un titre idéal quand on pratique ce métier.
Ouais. Bravo. Alors vous l'avez revendu, vous l'avez cédé, vous êtes fait
racheter ? Non, je suis parti à l'armée en fait, donc j'ai arrêté pour en fait... répondre à mes obligations nationales.
L'armée, c'était comment?
C'était très dur. J'ai beaucoup souffert, puisque je l'ai fait dans un ministère.
Ouais,
donc j'étais en costume cravate. C'était terrible.
D'accord.
Les cocktails, les petits fours.
Déjà.
Voilà. Et j'ai découvert mon métier dans un ministère. Voilà, j'ai travaillé dans un service de presse.
Ah, je croyais que c'était les cocktails, les petits fours, votre métier. Non. Non.
C'était un deuxième talent.
D'accord. Et donc vous découvrez votre métier et vous vous dites très rapidement, je vais travailler chez quelqu'un ou je vais monter ma boîte?
Je travaille donc avec quelqu'un de tout à fait formidable, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui s'appelle Jean-Pierre Raffarin, qui est alors ministre des PME, et qui m'embauche à son cabinet pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, j'apprends ce métier de relations avec les médias, et avec beaucoup de bonheur, puisque ça m'a permis d'avoir des relations très privilégiées avec celles et ceux qui déjà s'intéressaient à l'actualité et à l'avenir des PME, des TPE, des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Et puis voilà.
Vous rentrez quand même en relation avec les médias par la grande porte.
Oui, par une porte tout à fait privilégiée et tout à fait intéressante en termes professionnels, oui, absolument.
D'accord. Et comment ça se passe quand d'un seul coup on quitte ce rang de représentation en fait d'un ministère ou d'un ministre qui lui-même est déjà très médiatique pour arriver dans un autre environnement? Est-ce que les médias continuent à vous regarder ou est-ce que du coup c'est beaucoup plus compliqué après?
Non, la relation médiatique, elle s'arrête, mais elle s'arrête dès lors qu'il n'y a plus d'informations. C'est normal, l'auditeur ne suit pas celui qui apporte l'information, mais l'information en elle-même. Ce qui est plus dur, nous, ça s'est fait dans un contexte dont les gens se rappellent, puisque il y a eu dissolution et l'ensemble des collaborateurs de cabinet sont liés à la fonction du ministre et leur contrat s'arrête aussitôt que la fonction ministérielle est échue. Voilà. Donc il a fallu aller s'inscrire à l'agence de l'ANPE, puisque c'est ainsi que ça s'appelait alors, pour retrouver du travail. Et ouais, c'est une coupure nette et franche, mais bon, on ne fait pas ce métier toute sa vie, puisque c'est du 7h-23h quasiment tous les jours. Donc c'est pas vivable.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut être entrepreneur dans un cabinet ministériel ou est-ce qu'il faut vraiment avoir toujours le doigt sur la couture et on n'a pas le droit d'avoir une forme d'innovation, une forme d'autonomie, une forme de développement? Enfin, comment on mixe ça les deux?
Non, c'est... Alors, contrairement à ce que les gens pourraient penser, la politique est vraiment un secteur qui a révélé énormément de talents et de savoir-faire et pas forcément des gens qui étaient archi-diplômés. Il y a beaucoup de liberté qui est laissée à l'initiative, à l'innovation, à la proposition, à l'engagement, à l'implication... à l'originalité. Après, il y a du risque. Donc, quand on se plante, ça se voit plus que quand on se plante dans une entreprise classique et traditionnelle, puisque les gens de pouvoir sont suivis de tôt le matin à tard le soir, et plus la fonction est importante, plus est amplifié les bonnes comme les mauvaises choses.
D'accord.
Voilà, donc c'est un peu la règle cardinale de ce métier.
On était à la NPE. Comment vous êtes arrivé de la NPE après CVU?
Je suis retourné travailler dans une entreprise de communication et très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop fait pour moi. Donc voilà, on s'est séparés, enfin même pas séparés, puisque à un moment, j'ai proposé de devenir conseiller direct d'un client que j'avais moi-même apporté dans cette agence. Et donc j'ai créé cette entreprise sur la base de ce que j'avais appris au ministère et puis de ce que j'avais envie de faire dans ce secteur d'activité.
Vous l'avez créé seul, pressez-vous?
Yes, alone.
Je vous ai posé la question quand on a préparé cette émission. S'il y a une musique qui vous rappelle ou qui représente pour vous la naissance ou en tout cas votre entreprise.
C'était pas Chantal Goya cette fois.
C'était pas Chantal Goya. C'était, j'allais dire, une autre grande diva. Gloria Gaynor, sur un titre qu'on va certainement écouter qui va rappeler, je pense, beaucoup de choses. Vous allez nous expliquer ensuite pourquoi vous l'avez sélectionné. On l'écoute tout de suite.
You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
De retour sur We Do Biz, donc dans l'émission Le Jukebox de ma vie, le jukebox de la vie de Jackie Isabello aujourd'hui. Jackie Isabello, vous avez choisi Gloria Gaynor. Alors, I Will Survive, pourquoi ?
Alors moi, je tiens à dire que c'est une émission très agréable déjà, hein, parce que c'est vrai que le concept est très bon. Et
on fait tout
j'ai
pour,
la prétention
on fait
tout de m'y connaître un peu dans ce domaine. Voilà, donc je tiens à vous le dire.
Merci.
Bah, Gloria Gaynor, non pas pour les années 70, mais parce que c'est l'année de la création de ma boîte. Et c'est en 98 qu'on a gagné la Coupe du Monde, et c'est en 98 que j'ai créé ma boîte, voilà. Donc comme c'est une chanson assez symbolique de cette année-là, voici la raison de mon choix.
Choix donc avec un ancrage émotionnel. On reconnaît bien l'homme des médias. Vous avez besoin effectivement de rentrer, de partager avec les autres. Et maintenant, tout le monde sait que maintenant, Pressez-vous est né en 98, puisque voilà. Tout le monde se rappellera de cette chanson. Bravo.
Bah oui, c'est grâce à nous en fait que les gens se souviennent de ça, non pas grâce aux trois buts de nos amis Zidane et Petit.
Bah écoutez, très impressionnant en tout cas cette démonstration de 98. J'espère que vous en avez d'autres pour les prochaines années parce qu'on va continuer l'émission. Et donc moi je vous ai demandé, alors déjà est-ce que, avant que je vous pose cette question, quel est l'intérêt pour vous de la musique ? Est-ce que c'est juste quelque chose que vous écoutez ? Est-ce que c'est vraiment une passion ? Est-ce que c'est un moment, vous avez une relation particulière avec un instrument, avec la musique, avec des chanteurs ?
C'est un moment qui permet la création, c'est un moment de relâchement, et puis surtout un super moment de fête avec ses amis. Moi j'adore danser, j'ai plein de copains un peu cinglés qui adorent danser aussi, donc quand on fait la fête, on fait la fête et on la fait beaucoup, et plutôt pour se dandiner, donc avec la musique, on partage plein de choses, on oublie tous nos soucis, et puis on est content de se retrouver.
D'accord. Sur la partie création, sur la partie artistique, vous placez la musique justement sur quel registre ?
Sans vouloir singer les philosophes, mais la musique, c'est un des langages du monde. C'est un des moyens de décrypter la société. C'est un moyen de décrypter l'évolution d'une société. C'est, à l'instar du langage, un moyen de faire passer tout un tas de messages. L'art et donc la musique fait partie de même que la philosophie, du discours politique, d'une société vraiment à part entière.
D'accord. Donc c'est ça de tout temps, où vous trouvez qu'il y a un appauvrissement actuel ou justement une tendance à un mélange, à une worldisation de la musique. Qu'est-ce qui est, Quel regard vous avez sur cette approche-là ?
Non, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disent que ça s'uniformise. Forcément, il y a une uniformisation en façade, mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, on est capable, en allant sur tous ces sites, je ne sais pas si on peut citer des marques.
Citons.
Voilà, sur YouTube, sur iTunes, aller trouver tout un tas de musique géniale. Grâce à l'Internet, on peut fouiller. Voilà, il y a des morceaux que tout le monde aime bien. On a un peu l'instagrière, on a envie de communier un moment. S'il y avait une chanson que l'ensemble des êtres humains connaissait et sur laquelle on pourrait tous danser, ça serait génial. Après, ça ne nous empêche pas d'aller voir ailleurs. En littérature, c'est pareil. En télévision, c'est pareil. C'est pas appauvrir qu'à un moment, il y a une grande communion, une uniformité. Après, chacun d'entre nous est capable, grand garçon, avec son abonnement à 19,90€ par mois, d'aller fouiller sur un site qui se trouve je ne sais où pour trouver des musiques incroyable, avec des tempos de folie, des musiques africaines. On découvre la musique indienne aujourd'hui avec Bollywood. Avant, pour trouver un disque indien, c'était la croix et la bannière. On ne savait même pas qu'ils faisaient des tonnes de musique.
Merci Internet.
Voilà, merci Internet. Et merci aussi la mondialisation et quelque part l'uniformisation pour que tout le monde se retrouve parfois autour d'un symbole unique. Je trouve très agréable. Et je trouve assez dérangeant qu'on s'énerve de cette uniformisation. Il faut savoir garder sa liberté et de se dire à un moment, voilà, j'ai pas envie d'être uniformisé, je le suis de temps en temps, et puis quand j'ai pas envie de l'être, je le suis pas. C'est la liberté, tout simplement.
Alors, on a une très très belle transition par rapport à la sélection que vous avez faite pour la suite, puisque je vous ai demandé quel était le titre que vous écoutiez pour vous ressourcer, et là vous m'avez fait part donc de Let the Sunshine In, Et là, on est dans une grande, grande comédie musicale des années fin 60.
Grande.
Là, la plus grande.
Ah oui, la plus grande.
Hair, yes. Qu'on va écouter.
Hair
et là,
avec le H.
Pardon
le Hair avec le H.
D'accord, je fais mal le H. Et là, c'est vraiment effectivement un grand symbole de partage, à la fois d'uniformisation, mais de grande différence et de découverte des autres cultures. Je pense qu'on peut écouter cette très, très belle chanson.
Short of breath, whoa.
De retour sur We Do Biz avec Jackie Isabello. Donc Jackie Isabello, vous nous avez emmené à New York, puisque je crois qu'effectivement ça se déroule à New York.
Ça se déroule à New York, la meilleure comédie musicale du monde qui est aujourd'hui diffusée, enfin qui est jouée partout.
Est-elle encore jouée à Broadway?
Alors, elle est encore jouée à Broadway, elle est encore jouée à Covent Garden à Londres, j'étais il n'y a pas longtemps, elle est programmée. Et elle est programmée partout, tout le temps, c'est indémodable, c'est reprogrammé, rescénarisé, redécomposé, une fois ils sont tous tout nus à la fin, une fois il n'y en a qu'un, enfin voilà cette grande scène où on a découvert l'arrière-train de Julien Clerc et qui a contribué au développement de sa carrière.
C'était la mode avec Paul Naref à l'époque.
Hein. Ah bah ouais, c'est sûr.
On est dans un entrepreneuriat artistique là, puisque vous évoquez effectivement cette approche-là. L'entrepreneuriat artistique, c'est quelque chose que vous avez un avis sur cet entrepreneuriat-là?
Oui, j'ai des amis, je vais les citer,
ça c'est plutôt
le 9e concept, et qui ont décidé il y a quelques années de ne pas s'installer dans un statut d'intermittent du spectacle et de créer une vraie société dont le concept est de développer leur savoir-faire artistique au service de marques, mais au service de tout un tas d'autres choses, parfois tout à fait nobles. Ils accompagnent des gamins en difficulté. Et ils ont créé une société et ils ont cru que l'entrepreneuriat artistique pouvait être une véritable activité économique. Et aujourd'hui, ça marche. Je peux vous donner un exemple.
Ils ont créé Donnez-nous un exemple, Jacques Isabello.
Des intérieurs de costumes, par exemple, quand on achète un costard. Ouais. Avec le temps, on a de plus en plus envie d'avoir un truc qui nous plaît, parce qu'on le met tous les jours, c'est pas drôle, c'est un peu triste. Et on a la possibilité, grâce à eux, de faire tapisser l'intérieur de son costume d'une œuvre artistique sur tissu. Et ils vendent ça avec un tailleur, c'est génial. Donc l'art est une forme d'entrepreneuriat. Et j'ai un coup de gueule d'ailleurs à faire à ce
Allez-y.
Propos. Je vais le passer sur We Do Biz.
Allez-y.
Je voudrais dire que dans ce pays, on ne privilégie pas l'entrepreneuriat artistique. Je vous donne un exemple. Si vous investissez dans l'art, et que vous achetez un artiste mort, vous défiscalisez 100% de l'investissement. Si vous investissez dans un artiste vivant, vous défiscalisez 60% de l'investissement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supporter les vivants ou alors investir dans les morts? Je suis désolé, mais cette disposition est inique. Si on veut supporter le développement de l'art en France, et on est un pays qui a toujours su se démarquer en matière de création artistique, il faut faire du 100% pour les vivants et du 60% pour les morts. Parce que non seulement c'est dur de faire l'art, mais en plus si on se retrouve en concurrence avec des mecs qui sont morts il y a plus de 2000 ans, alors là c'est plus un marché du travail qu'on a, vraiment c'est...
Sachant qu'ils sont
c'est
nombreux,
de la concurrence
hein.
Déloyale.
Ils sont nombreux en plus. Parce que en 2000 ans, ils ont produit.
Quoi. Et, ouais. Et puis sans rien faire, ils continuent d'avoir du succès. C'est ça qui est terrible.
On est un peu cynique, mais sur le fond, je suis assez d'accord avec vous sur cette,
mais je crois beaucoup,
ce soutien.
Effectivement,
on parle souvent du spectacle vivant, mais c'est vrai que en tout cas, l'artiste vivant a besoin absolument d'être soutenu. Et je pense lui-même a besoin d'être accompagné dans son dispositif entrepreneurial. C'est-à-dire que l'artiste a souvent tendance à penser qu'il faut être pauvre, une oreille en moins pour bien peindre, ce qui n'est pas forcément vrai.
Je pense qu'on... pas forcément faux non plus.
Dans certains cas, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, mais il semble quand même que quand on a les moyens de pouvoir créer, on crée aussi peut-être de manière plus sereine et on se donne aussi les moyens d'inscrire son approche artistique dans la durée.
Oui, et puis c'est pas le même métier de créer et puis de diriger une entreprise. Donc c'est vrai que ça ne fait pas appel aux mêmes réflexes, aux mêmes mécaniques. Donc l'accompagnement est essentiel.
Néanmoins, il est quand même important d'avoir l'approche créative et l'approche d'originalité, je pense, quand on est entrepreneur. Qu'en dites-vous?
Oui, c'est en tout cas, il ne faut pas s'interdire de l'avoir. Il y en a qui l'ont plus que d'autres. Il y a des métiers où il faut sans doute être fortement... doté pour réussir, les milieux de la communication, les technologies, ces secteurs qui bougent beaucoup. Il faut être créatif. Après, dans d'autres secteurs, il faut l'être, mais sans doute peut-être un peu moins, beaucoup plus cartésien, beaucoup plus conceptuel, et savoir formater des choses. Et parfois, c'est vrai que ces qualités-là peuvent être antinomiques. Enfin, en tout cas, celui qui aurait toutes ces qualités-là ne serait pas mon ami parce que ça serait dérangeant.
Qu'est-ce qui vous stimule dans votre boîte?
Ce qui me stimule, c'est et ce qui nous stimule, parce que mes collaborateurs et collaboratrices surtout d'ailleurs, et moi-même, on a la chance de faire un métier qui intellectuellement est très stimulant. On travaille dans des secteurs qui bougent beaucoup. Nous, on a un positionnement qui est assez bien marqué. On a envie d'expliquer à nos clients qu'on connaît bien les sujets sur lesquels on travaille. Et certes, nous connaissons la communication, mais on connaît aussi leurs contraintes et leurs sujets. Et à ce titre-là, on a la chance de changer beaucoup d'informations, de pouvoir s'immerger dans des dossiers pointus. Et pour nous, c'est très jouissif que de pouvoir intellectuellement, chaque jour, remettre la tâche sur l'ouvrage, refaire incessamment la même chose, même si elle sera faite la fois d'après beaucoup mieux que la fois d'avant. C'est pas trop notre truc, donc intellectualiser un peu, ça nous sied beaucoup.
D'accord. Non, mais c'est pas grave. Vous étiez parti dans une envolée assez lyrique, donc ça va tout à fait avec. Je vous ai posé la question aussi. Qu'est-ce qui vous stimule et quelle est la musique que vous utilisez pour vous stimuler?
Pas Chantal Goya.
Et toujours pas Chantal Goya. Donc là, effectivement, c'est vraiment un. Vous n'aimez pas au final Chantal Goya?
En fait, non, j'aime pas du tout Chantal Goya. J'ai interdit à mes enfants de l'écouter, Chantal Goya.
Les
C'était
enfants...
Guignol que j'ai aimé.
Et vous avez choisi de nouveau Queen pour We Are The Champion. Alors, en quoi ça vous stimule, We Are The Champion? Parce que c'est un peu mou comme rythme.
Alors, c'est pas mou du tout, parce qu'en fait, We Are The Champion, c'est la musique qu'on met souvent à la fin d'une compétition à celui qui reçoit la coupe. Alors moi, j'ai fait beaucoup de sport parce que j'ai eu la chance.
Je pense que c'est pas forcément le rythme, c'est juste peut-être les paroles qui sont en référence.
Les paroles, c'est la symbolique. Et puis, s'il n'y a pas besoin d'aller trop vite pour célébrer une victoire, on a besoin de tous se retrouver dans une communion. Voilà, on a tous fait du sport. À un moment, il y a un gagnant, il y a un perdant, mais on est tous des adeptes, on est tous des amis parce qu'on fait un sport qu'on aime. Et c'est une des chansons les plus jouées. C'est dès qu'on finit un tournoi, une grande compète, paf, on balance We Are The Champion. Celui qui a gagné, qui reçoit la coupe. Tous les autres sont contents pour lui.
C'est la grande fête.
Déçu pour soi.
Avant qu'on aille sur les approches sportives, je vous propose qu'on écoute déjà et qu'on célèbre. Et ensuite, effectivement,
tous
on viendra
champions.
Sur la... On célèbre tous les champions. Bravo.
Tous les sportifs.
De retour sur We Do Biz après cette célébration. Alors, une célébration des champions économiques. On a vu que vous y connaissiez vraiment un rayon. Mais alors, vous êtes aussi spécialisé dans le sport?
Oh bah, comme tous les garçons.
Le football, non, le
non, pas trop, moi. Je suis c'est très quoi volleyball. Votre truc?
Volley.
Et puis boxe. Et puis jogging, voilà.
Vous êtes coureur.
Le reste, ouais, je suis coureur, mais je de jogging. Hein.
Non, mais l'un n'empêchant pas l'autre. Mais alors, vous courez pour vous détendre, vous courez pour vous entretenir votre corps d'athlète, vous courez parce que vous aimez ça. C'est la course à pied, c'est une passion.
Je partage cette passion avec vous, Stéphane.
Oui, c'est pour ça que j'essaie de vous faire sortir des ce que moi je ressens, mais je sais
le
que
sport
vous...
devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je soumets à notre ministre de la Santé, qui peut-être un jour pratiquera le jogging
avec ses crocs
les baskets aux joggers, puisque c'est très bon pour la santé, et sans doute ceux qui le pratiquent sont un peu moins malades, nous dit-on. Il y a des études très sérieuses qui sont sorties dernièrement et qui confirment cette théorie. Ouais, les sports d'endurance, ça permet de se canaliser, ça permet de se ressourcer, c'est un formidable bain de jouvence créative, parce que on sécrète ce qu'on appelle de l'endorphine, et l'endorphine, c'est très stimulant, c'est très euphorisant. Il faut faire très attention à toutes les idées qu'on peut avoir quand on pratique du sport, parce qu'il y en a 9 sur 10 achetées, tellement c'est euphorisant. Et puis ça permet d'évacuer son stress et puis oui, de rester en forme. Ouais. Moi, j'ai été élevé dans un milieu assez sportif, donc ça m'importe beaucoup.
Donc vous avez toujours été sportif? Enfin, toujours pratiquant.
Ouais, pas trop quand j'étais très jeune, mais après, avec le temps, ça s'est imposé à moi très naturellement. Ouais.
Alors, quand on est chef d'entreprise comme vous, on court combien de fois par semaine?
On court très tôt le matin déjà, parce qu'après, il n'y a pas que l'entreprise, il y a les enfants et la famille, c'est important.
Donc, vous
courez
de...
C'est très important. Bah, quand je prépare le marathon, je cours de 5h30 à 7h du matin, et 3 fois par semaine, parce que je ne peux pas faire plus. Même si j'aimerais faire plus, pour descendre son temps, il faudrait faire plus, mais bon, c'est déjà pas mal.
Et alors après, vous courez donc le marathon?
Et après, je fais du marathon, voilà.
Bon, vous annoncez un temps?
On va 3h38 à Londres cette année.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Il y a beaucoup mieux, et il y a beaucoup moins bien.
Je confirme. C'est pas la peine de me regarder. Hein.
Ah non, mais je vais regarder la table, pardon.
Donc, le sport, c'est quelque chose que vous conseillez à vos salariés, parce qu'on a assez peu parlé en fait de votre équipe, mais est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de proposer aux salariés? Est-ce que c'est un mode de management pour vous par le sport? Est-ce que vous y avez déjà pensé?
Non, pas trop. Par rapport à ça, on a un contrat moral avec mes collaborateurs, et ils savent que je ne suis pas un grand fanatique de tout ce qui... implique trop la culture d'entreprise surscénarisée. Je pense que l'entreprise, c'est important. Les gens ont appris de leur famille et ils ont dans leurs valeurs le souci du travail bien fait. Maintenant, je pense aussi que l'entreprise doit permettre aux gens de s'épanouir, et elle doit comprendre que si on n'arrive pas à s'épanouir, il y a sans doute un problème, et que les collaborateurs ne doivent pas plus faire que ce qu'ils font. Et s'ils le font très bien, avec beaucoup d'implication, c'est super. Alors, leur ajouter du management sportif, voilà, ceux qui aiment ça s'y retrouveront, ils en auront besoin. Ça leur permettra de partager avec leurs amis, ça leur permettra d'emmener leurs enfants vers des choses qui sont aussi des valeurs de respect incroyables. Hein. Moi, j'ai fait pas mal de sports de combat, et c'est vrai que j'ai rarement vu des endroits où les gens se respectent autant.
Un grand respect aussi, je trouve, moi, dans la course à pied, c'est-à-dire que le dernier est autant un héros que le premier.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que c'est un challenge personnel.
Ouais.
C'est chacun se fixe ses propres limites, et avec les objectifs qu'il s'est fixés, essaye de les atteindre et de mettre en place tout ce qu'il faut. Donc pour ça, les sports d'endurance ont un rapport à l'entrepreneuriat qui est très bien établi. On fait un business plan, on a une stratégie, on a une méthode. Et puis, on a un objectif final, et puis on a un rapport à la compétition qui est quand même assez présent dans l'entrepreneuriat. Et la victoire, elle est ce qu'on s'est fixé au départ.
D'accord, la concurrence, c'est quand même... L'approche de la concurrence est quand même un peu mise de côté son cours.
Non, parce qu'en fait, la concurrence, elle est là au quotidien. C'est-à-dire, le samedi soir, on fait la fête avec ses copains, on décide de se coucher à 3h du matin. Le lendemain, sur la fiche de préparation, c'est marqué 2h30 avec des exercices qui sont très durs. Si on se dit, je le ferai la semaine prochaine, voilà, la concurrence, elle est là. Mais elle est souvent là. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs, moi, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais c'est vrai que je suis assez lointain de tous ces discours sur le risque, sur l'échec. Bon, faut l'intégrer. Mais la chose la plus dure au départ, parce qu'on est dans un pays qui privilégie le salariat, on est dans un pays qui privilégie la structure, et c'est de se retrouver tout seul, sans quelqu'un qui va vous donner des consignes, et à un moment de se dire, bah voilà, je fais ce que je veux, mais comment je le fais? Qui va m'aider? Qu'est-ce que je me force à faire? Qu'est-ce que je me fixe comme objectif? Et ça, le rapport au jogging, c'est vraiment ça. Et donc la concurrence la plus insidieuse, c'est-à-dire son rapport à soi-même, il est là en permanence.
C'est-à-dire que la concurrence, vous ne l'avez jamais, c'est entre vous et vous, et qu'au final, c'est la différence peut-être entre le besoin pour certains de liberté et la réalité de l'autonomie une fois qu'on est entrepreneur.
Oui, on a, en tout cas, chacun a ce rapport à la concurrence. Après, on a un autre rapport à la concurrence. La concurrence, elle est protéiforme. Ça peut être par rapport au voisin d'à côté, le gars qui est dans le bureau d'à côté. On se tire un peu la bourre, on trouve qu'il fait du bon boulot, on a envie de faire un peu mieux que lui. C'est assez sain à partir du moment où c'est encadré. Mais la grosse concurrence, quand on crée une entreprise, elle vient quand même de soi au départ.
D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations sur votre manière de voir l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on a rarement des patrons qui évoquent cette relation qu'ils ont eux-mêmes à leur auto-management. Et c'est vrai que c'est... Merci beaucoup, Jackie. On va rentrer un petit peu, on va continuer à rentrer dans votre fort intérieur. Et je vous ai posé la question de votre artiste préféré. Vous allez nous dévoiler... Alors c'est un artiste, c'est un groupe qui est actuel, qui est Coldplay. Qu'est-ce que vous aimez chez Coldplay?
J'aurais pu dire Jackie Gelin aussi.
Ouais, mais il y avait un côté... Ouais.
Bah oui, mais bon. Non, j'aime bien leur nouvelle façon d'aborder la pop. Voilà. Et d'habitude, je déteste le piano, en fait, dans la pop. Et eux, ils sont capables d'associer le piano, ce qui est assez étonnant, je trouve. Et en tout cas, moi, qui me convient bien.
Mais vous avez une relation particulière au piano ou...
Non, pas spécialement. Si ce n'est que mes parents ont essayé de m'en faire faire et que ça a été une souffrance terrible pour moi.
Un rapport quand même particulier.
Non, pas trop. C'est juste pour la plaisanterie. Mais ils ont une façon de composer. Et puis moi, ça me parle. Je pense que l'art, à un moment, ça parle. Et on n'est pas capable d'expliquer pourquoi. C'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait qu'il avait acheté une œuvre et que le gars était incapable de parler de son œuvre. Je pense que les plus grands artistes sont foutus de parler de leurs œuvres. Parce que c'est pas leur métier, savoir parler d'un truc, c'est un autre métier. Mais l'expression créatrice, à un moment, c'est ça, c'est le génie. C'est quelque chose qui est incalculable. Et la musique en fait partie, et notamment la musique en groupe, parce que ces gens soient capables d'avoir un leader, et je leur souhaite d'exister pendant longtemps en s'exprimant chacun aux côtés du chanteur, qui aujourd'hui dans l'expression artistique musicale est quand même celui qui emmène tout le monde. C'est assez formidable, c'est à tous les niveaux.
Très bien, mais écoutez, on va arrêter d'en parler comme vous dites, mais maintenant on va l'écouter. Coldplay.
Degrees.
Pour ce beau moment, effectivement, Coldplay, c'est assez planant.
C'est beau.
Mais c'est en même temps résolument moderne et, à mon avis, acceptable par des gens qui sont moins sensibles à la musique électronique actuelle.
Ouais, ça réunit beaucoup de gens. Je les ai vus en concert plusieurs fois et ça peut réunir des fans de pop rock et puis des parents qui emmènent leurs enfants pour leur faire découvrir une culture musicale, on va dire, digne de ce nom.
Alors, vous parlez de dignité. J'avais justement envie de vous amener sur un terrain que vous aimez, je pense, moins. Je vous ai posé la question, quel est l'artiste dont vous avez honte de vous vanter, mais que vous aimez quand même beaucoup? Et là, vous m'avez répondu Elsa, qui chantait « T'en vas pas ».
Ah oui, c'est honteux.
Non, mais honte, je ne sais pas, mais vous aimez beaucoup cette chanson.
Ah oui, j'aime beaucoup cette chanson, ouais. Je me rappelle du combat Vanessa Paradis-Elsa. Vanessa Paradis, la petite dévergondée.
Ouais, quand c'était l'époque du taxi.
Force est de constater que les choses ont évolué. Mais c'était une belle chanson, puis elle était dans l'air du temps. C'est le divorce, c'était pas forcément simple pour plein de gens. Voilà, c'était plutôt marrant. Ouais, c'était sympa.
Je crois que peut-être, je sais pas si les deux ont pas. Elle a été écrite par Monsieur Marin, je crois qu'il y a.
Voilà, le compositeur de Jalmas.
Et de Stéphanie, de Monaco.
J'ai honte aussi d'aimer Jalmas.
Voilà, je découvre. On découvre de. L'envers de Jackie Isabello, aujourd'hui on va écouter Elsa, t'en vas pas.
Tu m'emmèneras jamais aux USA.
On arrive maintenant à la fin de cette émission avec Jackie Isabello.
Hélas.
Et oui, bah, toutes les bonnes choses ont une fin, Jackie, sachez-le.
C'est vrai, c'était très
agréable. C'était un moment très intéressant pour nous de revivre en tout cas tous les moments forts et émotionnels de votre vie. On n'a pas évoqué une partie de votre autre vie, qui est une partie que tout le monde va pouvoir bientôt retrouver en librairie, qui est votre vie d'écrivain.
On fera une deuxième émission là-dessus, alors.
Je serais ravi de vous inviter où on parlera effectivement de vos ouvrages. Parce que vous avez une actualité avec un ouvrage qui est sorti cette année. Je crois que vous avez coécrit.
En finir avec la dictature du salariat, avec un petit camarade, patron d'une PME qui s'appelle Thibault Langsade, qui est un peu connu désormais, puisqu'il a été très créatif au moment de la pré-campagne pour la présidence du MEDEF.
Je crois qu'il est membre du CODIS.
Absolument.
Et vous aviez écrit un autre ouvrage auparavant?
Oui,
parce que vous
étiez
déjà commis avec un autre ami.
Avec quelqu'un qui fait de la radio, on peut dire quand même beaucoup mieux que nous, parce que lui, c'est son vrai métier.
Il en vit.
Il s'appelle Pascal Le Guerne et qui est journaliste sur France Info. Un bouquin pour aider les créateurs à se diriger dans ce démarrage de leur entreprise.
Merci en tout cas pour toutes ces informations. Ce qui me reste à faire, c'est vous souhaiter une très bonne vie dans toutes vos entreprises. Plein de belles choses, plein de courage, plein de belles courses et puis plein d'auditeurs pour We Do Biz.
Et longue vie à We Do Biz, puisque c'était un moment très agréable, je le dis sincèrement. Et bravo pour vos formats d'émission qui sont très originaux.
On essaye. En tout cas, c'était le jukebox de votre vie. À très bientôt et on se quitte avec un morceau extrêmement dansant, c'est Only Ways Up. Merci Jackie.
Au revoir.